Alors, je ne sais pas si vous savez ou si vous connaissez ce truc qu'on appelle le gros 8 dans les parcs d'attractions. C'est un machin en métal qui va dans tous les sens, où on attache notre ceinture en se disant que c'est juste pour le fun, et puis 10 secondes plus tard, on a le bide dans la gorge, les mains accrochées à la barre, et une espèce de pensée, on va dire furtive, pour les décisions de notre vie qui nous ont amenés jusque-là. Et ben, cette semaine, il faut reconnaître un peu que les marchés, c'est exactement ça, exactement. Sauf que cette fois, le grand 8 de cette semaine, bah, il dure pas 30 secondes, il dure 5 jours. Et c'est pas fini en plus, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui a coupé les freins, retiré la ceinture de sécurité et qui tweet depuis le premier wagon en disant que tout va aller très très bien. Bah, ce quelqu'un, vous le connaissez déjà, il s'appelle Donald et c'est pas un canard inventé par Walt Disney, ce qui finalement n'aurait pas été plus mal. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, je suis Thomas. Nous sommes le samedi 28 mars 2026. Alors installez-vous confortablement parce qu'on a du boulot, mais je vais quand même essayer de ne pas vous prendre plus de 35 minutes.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors avant de vous raconter l'histoire, on va prendre quelques repères concrets parce que cette semaine, les chiffres parlent autant que les mots. Le S&P 500 termine donc à 6368, cinquième semaine consécutive de baisse. Ça ne lui était plus arrivé depuis mai 2022. Il affiche désormais moins 7% depuis le 1er janvier et moins 7,4% sur le seul mois de mars, ce qui en ferait donc le pire mois depuis septembre 2022. Depuis les plus hauts de tous les temps, l'indice de référence américain est en baisse de 9,4%, ce qui veut quand même dire que nous sommes pas très loin de la zone de correction. Par contre, du côté du Nasdaq et du côté du Dow Jones, c'est fait. La correction zone, c'est dedans, c'est maintenant, on y est. Le Nasdaq clôture à 20 948 en correction officielle depuis jeudi. Sur les 11 dernières semaines, l'indice était en baisse 10 fois, 10 semaines. On a beau dire, on a connu des automnes bien plus ensoleillés que ça à Genève. Et puis, le Dow Jones, vous l'avez deviné, est entré officiellement en correction ce vendredi, et 10% en dessous de son record de début février, 794 points perdus, rien que la journée d'hier. Le VIX, lui, l'indice de la peur dépasse les 31%, sa moyenne historique est quand même à 20, on est quand même nettement au-dessus, ce qui veut dire qu'on a un tout petit peu les jetons. Le WTI clôture autour des $100, en hausse de 80% depuis Noël, et de plus de 54% depuis le 28 février, date du début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Le rendement du 10 ans américain touche les 4,43%, son plus haut depuis juillet 2025, et le 30 ans frôle les 5%. Et puis alors, pour nos amis français, le 10 ans français a atteint les 3,88%, son plus haut depuis juin 2009. Oui, 2009, ça rappelle des souvenirs. C'est parfait pour emprunter, tout va bien. Ah oui, et puis bien sûr, si vous aviez encore un doute, le CAC, le DAX, le SMI, l'IBEX en Espagne et le BEL20 sont tous, sans exception, en zone de correction. Finalement, il n'y a que le UK et l'Italie qui tiennent encore le coup. Mais encore une semaine comme celle qui vient de se terminer, et ce sera clairement plié, toute l'Europe, sans exception, sera en correction. Bitcoin, lui, gravite autour des 65 000 $, soit à peu près la moitié de son sommet d'avant-guerre, et l'or, même l'or baisse, dans le contexte de la guerre, la valeur refuge par excellence, celle qu'on nous apprend dans les écoles de bourse, on y reviendra tout à l'heure. Normalement, ça ne devrait pas se produire, mais l'or termine quand même la semaine juste sous les 4 500, en baisse de 20% depuis les plus hauts, comme si la moitié de l'or mondial était stockée dans les centrales nucléaires iraniennes. Grosso modo, c'est un bear market sur l'or pour l'instant. Voilà le décor. Maintenant, attaquons le sujet de l'histoire. Lundi matin, l'ambiance était à la fin du monde, hein, version douce. Le CAC 40 perdait 2%, le DAX dégringolait 2-4%, la bourse suisse suivait le mouvement. Et j'en parle avec d'autant plus d'émotion que la Suisse venait d'apprendre que Washington l'avait inscrite sur la liste des pays aux pratiques commerciales déloyales. La Suisse déloyale, c'est comme accuser un moine bouddhiste de tricherie aux échecs. On n'est vraiment plus à une absurdité près. La Suisse n'est pas déloyale. La Suisse n'est pas câblée pour déranger. Elle est câblée pour rester neutre et acheter des avions de chasse qui ne fonctionnent pas et des flingues pour l'armée qui sont inutiles. Mais passons, parce que c'est vraiment pas le sujet. Un sujet d'ailleurs qui a été noyé dans l'actualité trumpiste de la semaine. Donc voilà, lundi à midi, les marchés étaient donc dans un état lamentable à cause de la guerre, Hormuz, le pétrole, machin, tout ça. On va tous mourir et les bourses vont à zéro. On connaît bien cette ambiance de fin du monde où on baisse les bras. Et là, on avait clairement baissé les bras. Mais j'ai dit, on avait. On avait parce qu'il y a un truc qui a tout changé. Parce qu'à 12 heures précises, lundi dernier, Trump a posté sur Truth Social 22 mots, 30 secondes de lecture, même pas. Des discussions très bonnes et très productives avec l'Iran pour résumer la chose. Et bien sûr, les frappes sont reportées de 5 jours. Le résultat, on le connaît. Les marchés ont swingé de moins 2 à plus 2. Le DAX a repris 1315 points. En 10 minutes, un mouvement totalement délirant qui représenterait un mouvement total financier de 3000 milliards de market cap. Je ne sais pas qui a calculé le montant, mais ça fait quand même cher le caractère sur Truth Social. Et puis à 13h30, l'Iran a pris la parole, il confirme qu'ils ne sont pas en discussion. Trump mentirait. Aucune discussion pour l'instant, aucun contact, pas un coup de fil, pas une carte postale. Le Parlement iranien parle de manipulation des marchés financiers. Bon, là, sur ce coup-là, on peut pas leur donner tort. Les marchés ont quand même clôturé en hausse, validant plus ou moins la version de Trump, ce qui demande clairement et objectivement aujourd'hui un certain niveau de confiance en ce type-là. On apprendra plus tard que l'Iran est quand même un peu en discussion, mais que pour l'instant, aussi fou que ça puisse paraître, ils ne sont pas d'accord. Mais en tous les cas, la journée du lundi 23 mars aura marqué très très fort l'esprit des marchés comme étant un moment fort de l'impact de la méthode Trump. Et on ne le savait pas encore lundi dernier, mais visiblement le président n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin avec ses déclarations à l'emporte-pièce. Bon ça, si on avait encore un doute, il est clairement levé. Changeons donc un petit peu de sujet parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, il y a des gens qui observent l'économie de façon factuelle, avec des réflexions presque rationnelles et qui n'intègrent pas les tweets du président américain. Et cette semaine, on notera que l'OCDE a parlé et elle n'est pas contente du tout. Elle a publié ses nouvelles prévisions économiques et c'est vraiment pas l'euphorie. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est l'OCDE, c'est un club de pays riches qui se réunissent pour expliquer aux autres comment gérer leur économie, alors qu'eux-mêmes improvisent très souvent sur la leur. Par exemple, la France. La France est membre fondateur de l'OCDE, donc elle est dans le club VIP depuis le début, avec badge, coupe de champagne et droit de donner des leçons aux autres, même quand elle galère à gérer ses propres déficits. Bref, pour faire simple, ils pondent des rapports ultra sérieux pour vous dire ce qui va mal dans le monde, rapport que personne ne lit, bien sûr, sauf quand ça confirme ce que les marchés ont déjà décidé la veille. Donc l'institution maintient sa prévision de croissance mondiale à 2,9% pour 2026. Mon Dieu que c'est rassurant. Mais par contre, elle a revu son inflation, bah devinez où, à la hausse. Si on regarde juste pour les USA, ils attendent 4,2% d'inflation en 2026. 4,2 dans un pays dont la propre banque centrale a une cible d'inflation à 2%. Je vous laisse faire le calcul pour voir quel est l'écart de vision pour l'instant. La conclusion est hyper simple, mais brutale. Plus d'inflation, moins de croissance, ce que les économistes appellent avec ce mot merveilleux qu'on évite de prononcer trop fort, la stagflation. On commence à en parler un petit peu trop quand même, hein. Je sais pas, moi je trouve qu'on en parle beaucoup, je sais pas vous, mais c'est vrai que c'est vraiment en train de devenir une obsession. Et pendant ce temps-là, les adjudications du Trésor américain sont les pires depuis 3 ans et demi. Ça, c'est Bank of America qui le dit. Personne ne veut plus acheter des obligations américaines quand l'inflation repart et que la Fed pourrait, conditionnelle, mais hypothèse de plus en plus discutée, être contrainte de monter ses taux plutôt que de les baisser. On en a parlé dans la vidéo d'hier, la probabilité d'une hausse des taux est de 46,5% au dernier sondage. Je rappelle que le 1er janvier, donc il y a 90 jours à peu près, ces mêmes probabilités étaient de 0%. Et puis alors, s'il ne faut retenir qu'une seule journée de cette semaine délirante, jeudi fut clairement la journée clé de la semaine. D'abord, le Nasdaq est officiellement entré en zone de correction, baisse de plus de 10% depuis ses records, c'est officiel, validé et tamponné par Wall Street. Et puis ensuite, la séance a offert un cadeau empoisonné supplémentaire. Meta plongeait de près de 8% suite à la décision d'un jury américain d'attribuer 6 millions de dollars à une jeune femme incapable de gérer son temps de scroll sur Instagram. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, vous connaissez mon opinion là-dessus. Mais le fait est que ça a quand même effacé plus de 120 milliards de capitalisation boursière en une séance. Meta finira la semaine à moins 11% et Alphabet quasiment à moins 9%. Et puis on a eu aussi Micron, des résultats excellents, il n'y a pas d'autre terme. Bénéfice net par action à 12$ contre 9,15$ attendu. Et le titre plonge quand même de 16% et rentre en bear market cette semaine parce que Google a présenté une architecture d'IA censée réduire les besoins en puce mémoire. On a déjà abordé le sujet également. Et puis,
Et puis alors, il y a une nouvelle dont on n'a pas trop parlé, c'est l'arrivée de Mythos. En fait, c'est Anthropic, hein. Anthropic encore eux qui bossent sur un modèle appelé Claude Mythos, et selon leurs propres mots, c'est le truc le plus puissant qu'ils aient jamais construit. En gros, on passe de l'IA intelligente à l'IA qui commence à faire flipper même ses créateurs. Je me répète, mais on se rapproche de plus en plus du concept de Skynet et de l'arrivée d'une tripotée de T-1000 qui vont débarquer du futur. Alors cette nouvelle sur Mythos, c'est pas vraiment une info officielle, mais plutôt une fuite, hein. Et là, surprise, on apprend qu'il y a un nouveau niveau au-dessus des modèles actuels, genre Super IA++, capable de faire du code, du raisonnement et surtout du hacking à un niveau quasiment délirant, tellement puissant que même eux, ils disent on va peut-être y aller doucement. Traduction, on a peur de ce qu'on a créé. Le modèle serait très en avance, en cybersécurité offensive surtout. Autrement dit, il peut potentiellement trouver et exploiter des failles plus vite que les humains peuvent les corriger. Je vous redirige et je vous encourage à aller regarder le film Terminator, le 2 ou le 3, là, quand ils vont chez Skynet. C'est assez intéressant. Donc imaginez, un hacker avec ça, c'est jackpot, un état avec ça, c'est la guerre silencieuse et c'est Big Brother qui watching you, et un stagiaire qui clique au mauvais endroit et c'est une catastrophe industrielle. Heureusement, pour l'instant, c'est ultra cher à faire tourner et c'est pas prêt du tout, mais alors du tout, pour le grand public. Alors Mythos, c'est hyper simple, hein. C'est une IA tellement balèze que même ceux qui l'ont créé sont en train de se dire on va peut-être éviter de la lâcher dans la nature tout de suite, les gars, hein, d'accord ? En clair, on vient peut-être de franchir un cap, une péninsule, et personne ne sait vraiment si c'est une bonne idée, surtout pas le secteur du software, qui ont toujours peur de se faire grand remplacer. Le secteur logiciel est désormais en baisse de près de 30% depuis ces sommets, et l'immobilier commercial, lui, a perdu 35% à titre indicatif, et sur les 25 sous-secteurs du S&P 500, il n'y en a plus que 9 qui ne sont pas en zone de correction. Enfin, pas encore. Il faut attendre la semaine prochaine. Et puis alors, pour couronner le tout, Trump a annoncé jeudi soir une nouvelle extension de son ultimatum à l'Iran jusqu'au 6 avril, ce qui aurait donc dû être une excellente nouvelle et permettre au marché de finir en fanfare. Mais les marchés ont eu exactement la réaction inverse de celle de lundi. Oui, parce que donner plus de temps aux négociations, c'est aussi étendre la durée du conflit, et chaque jour qui passe accroît les conséquences économiques. Et puis alors vendredi, ça a été la journée qui a peut-être tout changé dans ce conflit, et quand je dis tout changé, clairement, je pèse mes mots. Les États-Unis et Israël ont bombardé des sites nucléaires iraniens. Un réacteur de recherche à eau lourde du complexe d'Arak, une usine de production de Yellow Cake dans la province de Yazd, deux des plus grands aciéristes iraniens ont également été frappés, l'Iran a riposté, des drones et des missiles sur les voisins du Golfe Persique, deux ports du Koweït endommagés, et des alertes missiles à Doha, et surtout, et c'est là que l'escalade prend une autre dimension, une frappe sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. 10 soldats américains blessés, dont 2 grièvement, plusieurs avions ravitailleurs endommagés. Les Houthis du Yémen ont annoncé qu'ils étaient prêts à rentrer directement dans le conflit, et je crois même qu'ils ont commencé à tirer des roquettes. Un projectile, d'ailleurs, a frappé les abords de la centrale nucléaire de Bushehr, et l'Iran a précisé que la centrale est opérationnelle et qu'elle contient des quantités significatives de matière radioactive. Mais le terme utilisé dans la communication iranienne pèse quand même un petit peu dans les esprits, parce qu'ils ont dit « conséquences irréversibles pour la région ». Trump a déclaré depuis Miami qu'il reste lui-même, hein, lui-même personnellement tout seul, un grand faiseur de paix, et qu'il lui restait 3554 cibles à traiter. Je sais pas si quelqu'un va réagir, mais il commence à faire presque plus peur que les Iraniens. Bref, face à tout ça, les marchés ont continué de baisser, et ce qui, il y a encore 2 semaines, aurait provoqué un rebond immédiat sur un discours présidentiel, eh bien, cette fois, rien. Rien du tout. Enfin, pour le moment, parce que le week-end ne fait que commencer, et on sait que Trump aime bien agir le week-end. On notera quand même au chapitre Bonne Nouvelle que les USA estiment quand même que le conflit sera plié dans les 2 semaines à venir. Pour une fois, on espère que les experts ne se gourrent pas, parce qu'à la vitesse où ça baisse, il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Et c'est là qu'on arrive au sujet le plus important peut-être de cette semaine pour nous, les investisseurs, le fameux Taco Trade, Trump Act and Chicken Out, qui avait été le script parfait de ces 6 à 12 à 18 derniers mois. Eh ben, le Taco Trade est en train de perdre son efficacité. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Barclays, dans une note qui a été publiée vendredi, une note qui disait, je cite, « Le constant flip-flopping de Trump et l'avalanche de headlines commencent sérieusement à saper l'efficacité du Trump put. » Un autre analyste de StoneX est encore plus direct, et je paraphrase avec plaisir, il disait « Trump semble perdre son emprise sur les marchés. Les investisseurs ne prennent plus ses déclarations pour argent comptant. » Alors concrètement, si on fait le bilan, ça donne quoi cette semaine? Lundi, un tweet optimiste sur l'Iran rebonde pas loin de 3000 milliards. Jeudi, une extension de délai, que dalle. Vendredi, des frappes sur des sites nucléaires et des déclarations de paix, égale les marchés vendent encore plus fort. C'est clairement un changement de régime, un changement de paradigme, un changement de perception. Et c'est peut-être le signal le plus important et le plus intéressant de la semaine. L'autre grande leçon de cette semaine, c'est que rien, mais absolument rien, ne protège plus personne. Normalement, quand les actions baissent, les obligations montent, l'or monte, le Bitcoin monte parfois, et comme ça, vous avez un espèce de filet de sécurité dans votre portefeuille. On connaît tous l'histoire, diversification, etc., etc. Cette semaine et depuis 4 semaines consécutives, actions, obligations, or et Bitcoin, ils ont tous baissé en même temps. Il a été même calculé que cette année, les obligations sont en hausse sur les jours de baisse des actions seulement 43% du temps. L'or, pareil, Bitcoin c'est 25% contre plus de 60% en moyenne sur les 10 dernières années. À titre d'exemple, un investisseur qui aurait eu connaissance parfaite de ce qui allait se passer le 27 février, la veille du début du conflit en Iran, et qui se serait couvert avec des obligations, de l'or, des options sur le VIX et des puts sur le S&P 500, eh ben aujourd'hui, il serait en perte pratiquement sur chaque position. Ouais, vous l'aurez compris, les vieilles recettes ne marchent plus. Le monde est passé des chocs de demande où les banques centrales savent quoi faire aux chocs d'offres. Et sur les chocs d'offres, eh bien les taux d'intérêt ne servent à rien. La seule chose qui peut résoudre un choc d'offres pétrolier, c'est la diplomatie. Et ça, c'est pas dans le mandat de la Fed, et ni dans celle de la BCE, et on se demande même si c'est dans celui de Trump. Mais voyons quand même ce qui a fonctionné, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour faire de l'argent dans n'importe quelle situation. Cette semaine, l'énergie a progressé de 6,2%, vous avez Schlumberger qui a pris 15%, Apache 14%, les matériaux de base qui progressent de 4,2%, les utilities de 2,9%, les défensives alimentaires de 1,2%. Bienvenue dans ce portefeuille 2026 qui fait moins mal que les autres, pétrole, gaz, mine, électricité et pâte alimentaire. On est bien loin des Max 7 de l'époque. Là, pour l'instant, c'est tout ce qui ressemble à de l'économie de guerre. Et puis, la bonne nouvelle macro, c'est que le déficit français est ressorti à 5,1% du PIB pour 2025 et c'est meilleur que prévu. Finalement, le cornu n'est pas si mauvais que ça. Ce qui n'a pas empêché le 10 ans français d'atteindre son plus haut quand même depuis 2009, emporté par l'avalanche du mouvement global. Mais bon, un point positif, c'est toujours ça à retenir sur la semaine. Voilà donc où on en est. 4 semaines et demie après le début du conflit américano-israélien, plus de 4500 morts dans le conflit, le détroit d'Hormuz est toujours fermé, les sites nucléaires iraniens ont été frappés, une base américaine en Arabie Saoudite a été touchée, les Houthis menacent d'entrer dans la danse, et j'ai l'impression que ce matin on peut dire qu'ils sont entrés dans la danse, le Pentagone envisage d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires dans la région, et Trump dit vouloir être un grand pacificateur avec 3554 cibles restantes à traiter. Les fondamentaux des entreprises ne sont pas si mauvais, mais les marchés ne regardent pas les fondamentaux. Enfin, ils les regardent plus, même si dans 10 jours, c'est la saison des earnings qui recommence. Il faudra donc bien s'y coller encore une fois. Mais pour le moment, ils regardent le détroit d'Hormuz, ils regardent le baril et ils regardent bien sûr le smartphone de Donald Trump. Le 6 avril, c'est dans 9 jours, c'est la nouvelle deadline, c'est la prochaine grande station du Grand 8, pour autant que Trump respecte la deadline, et là, de ce côté-là, il n'y a rien de moins sûr. Si on regarde maintenant les performances de la semaine, alors vous le voyez, l'argent rebondit, le Brésil est en hausse, le SMI est en hausse quand même sur la semaine, il faut le noter, plus 1,86%. Si on regarde un peu plus loin, c'est pas terrible quand même. Et puis si vous regardez la suite, vous voyez que quand même bon, le CAC termine en hausse aussi, ce qui est assez impressionnant. Par contre, aux États-Unis, Dow Jones en baisse, l'or en baisse, le S&P 500 en baisse, le SOX en baisse, 2,78%, le Nasdaq, moins 3,23%. Ça tape quand même sur tout ce qui est tech. Et puis alors, pour une fois, le Bitcoin est fidèle à son le motto qu'on lui donnait tout le temps de dire qu'il suit systématiquement la tech. Ben c'est bon, il a repris le rythme, puisque là aussi, lui aussi, il perd 3,53% sur la semaine. Sur la performance du marché suisse, alors là, du SMI, vous voyez que sur 5 jours, Richemont reprend 5,87%, Partners Group reprend 4%, ça c'est un peu du bottom fishing. Même chose sur Roche, 3,69 qui rebondit enfin, Novartis qui va bien, qui a bénéficié de certains upgrades de la part de certaines banques américaines. Et puis de l'autre côté, on a un peu des rééquilibrages de portefeuille, puisque ceux qui avaient bien performé ces temps sont un peu sous pression, c'est le cas de Swisscom et d'ABB. Mais pour être très franc, il y a très peu de news qui sortent sur la Suisse. J'ai dû batailler pour vous en trouver quelques-unes à discuter tout à l'heure dans cette vidéo. Mais pour l'instant, ça reste assez silencieux, assez calme. Tout le monde joue avec le marché et les indices fonctionnent uniquement avec ce qui se passe au niveau de la guerre. Voilà, vous avez le graphique du SMI devant vos yeux. Alors vous voyez quand même, ce qui est assez quand même sympa à retenir, c'est que ce support, ce canal haussier dans lequel on est, fonctionne quand même vachement bien. On va quand même le notifier. On avait eu cette correction durant Liberation Day l'année passée. On l'avait cassé, mais on était revenu dedans. Plusieurs fois, vous voyez, on a tenu, on est revenu dedans, là aussi. Et puis, eh bien, là, récemment, lundi dernier, donc on a fait ce gros trou d'air en début de séance, avant de revenir dedans, et terminer la semaine plutôt pas trop mal, parce qu'on a même réussi à combler un gap qu'on avait laissé en descendant. Donc j'ai envie de dire que pour l'instant, si ça se passe relativement bien ces prochains temps, mais là, on est dans le noir absolu, eh bien, le SMI est sur un niveau d'achat plutôt intéressant. Moyenne mobile des 200 jours qui semble faire office de support, avec cette zone des 12 350, 12 400 qui semble assez solide pour l'instant. Mais bien évidemment, en fonction de ce qui va se passer ces derniers temps, prochains temps, pardon, on y verra un petit peu plus clair et en fonction de ce que nous dira Donald Trump ces prochains jours. Le S&P 500, vous voyez 9,4% de baisse depuis les plus hauts de tous les temps. Donc on n'est pas très loin de la zone de correction, de la zone de correction pour le S&P. On a cassé la moyenne mobile des 200 jours de manière plutôt nette. On n'a même pas réussi à revenir au-dessus. Là, franchement, c'est le cas, pour l'instant, c'est le never catch a falling knife. On ne sait pas ce qui va se passer ces prochains jours. Mais en fonction de ce qui va être dit et fait sur le conflit iranien, eh bien on verra si on trouve la force de rebondir. Mais ça ne sera pas facile. On a un espèce de semi-support qui vient au niveau des 6200 qui pourra peut-être retenir un peu l'avalanche. Mais pour l'instant, c'est pas très beau. Il faut bien comprendre aussi que cette correction finale qu'on a eue ici en fin de semaine, on avait déjà fermé les marchés en Europe. Donc attention à l'ouverture lundi matin aussi. Le Nasdaq, c'est la même photo, tout cassé. Voilà, on a tout défoncé pour l'instant. On est en dessous de la moyenne mobile des 200 jours et vachement loin quand même. Depuis qu'on a cassé en 3 séances quand même, on est passé de 24 380 à 23 000 tout rond, quasiment 23 100. Donc là aussi, ça pue, plus vraiment de support derrière. Attention, il va falloir un miracle et il va falloir que Trump trouve les mots pour réussir à nous faire inverser la tendance sur la tech ces prochains jours et assez rapidement. Sinon, ce genre de graphe, vous voyez, ça peut vite se transformer en des mouvements avec des gros gaps qui nous emmènent vite de 5 ou 6% plus bas sur les marchés américains. Le SOX, il est toujours relativement bien disposé. On vient tester les supports à 7440 parce qu'au fond de nous, on croit toujours à l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, c'est ce qui nous sauve. On a vu les bons chiffres de Micron malgré qu'elle s'est fait quand même démonter durant la semaine. Et pour l'instant, le SOX tient. Mais si lui commence à casser ici et qu'on va chercher la moyenne mobile à 6700, là, on va avoir des pressions vendeuses qui vont être terribles sur le reste des indices. Donc méfiance quand même. Rapidement, le CAC 40, ça se passe de commentaires. Vous voyez, 10,9% de baisse sur l'indice depuis les plus hauts. On tient les 7700. On a un gros support à 7500 sur le CAC. Il faudrait pas qu'on aille le casser en descendant. Le DAX est aussi en baisse de 12,7% depuis les plus hauts historiques. Alors, souvenez-vous de la hausse discontinue qu'on a eue l'année passée. Là, on est en train de payer l'addition, on va dire. On a un gap à aller chercher à 21 500 sur le DAX qui est facilement atteignable ces prochains temps. Et on sait que le DAX peut facilement bouger 2500 points intraday, donc méfiance quand même. Et puis, je vous disais l'or. Alors, vous voyez, l'or depuis les tops est en baisse de 20%. Donc, cette baisse qu'on a momentanément sur l'or ici, ça représente quand même une zone de bear market par ici. La tendance de fond qu'on avait ici est en train de céder. Donc ça, c'est pas terrible non plus. Attention, ces prochains temps sur l'or, ça pourrait être très dangereux, même si la logique nous échappe en ce moment, puisque vu le comportement des marchés, ça devrait se passer un petit peu mieux. Le pétrole, alors bah, le pétrole, vous êtes au courant, on en parle assez, il me semble, ces temps. Le pétrole est donc reparti à la hausse sans aucun problème. Vous voyez que on a 53% de performance depuis le mois de février, donc ça continue et on est quasiment au plus haut si on fait abstraction de cette exagération qu'on avait eue il y a deux semaines. Mais là, on va rechercher globalement les 104, 103, si on arrive à casser à la hausse, attention. Mais là aussi, je vous le disais tout à l'heure, le 6 avril avec l'ultimatum de Trump nous permettra de voir si, par hasard, on casse pour aller chercher plus haut. Avec une nouvelle attaque violente des Américains, ça pourrait justifier un nouveau breakout historique sur le baril ces prochains temps. Et puis je vous montre aussi ça, c'est le graphique de Micron. Alors Micron, on en a parlé, un extraordinaire résultat il y a 10 jours en arrière. Le titre était à 470, on est à 357, on s'est fait littéralement massacrer sur Micron. Pourtant, tout va bien, mais on a l'impression que la smart money, entre guillemets, est en train de prendre les bénéfices des choses qui ont cartonné et qui pourraient cartonner encore, mais qui se méfient quand même de l'avenir avec ce qui est en train de se passer au niveau du conflit iranien. Pour ce qui est des vedettes de la semaine, alors je vous préviens tout de suite, c'est pas la folie niveau news, hein, vous l'aurez compris, le maître du game, ça reste quand même Trump et sa guerre, mais on notera quand même 2-3 trucs à signaler en Suisse, comme par exemple Sonova, qui fait le ménage et qui vire son activité audio grand public. Oui, Sennheiser passe potentiellement à la caisse, alors pourquoi ? Parce que les écouteurs premium, c'est sympa, mais ça colle pas dans le délire d'innovation médicale de Sonova, donc dehors. La division pèse 6% du chiffre d'affaires, autrement dit, pas stratégique, on passe à autre chose. En parallèle, Sonova veut jouer la carte intelligence artificielle plus digitalisation, parce qu'en 2026, si t'as pas d'IA dans ton chiffre d'affaires, t'existes même pas. Ils annoncent donc une nouvelle plateforme pour fin de l'année. Traduction, on prépare le prochain jouet pour relancer la croissance. Et le boss nous dit que le marché va repartir. Bon, ça, c'est le discours classique du CEO optimiste payé pour y croire et pour être optimiste. Mais surtout, donc, chez Sonova, c'est cap sur l'Asie parce que vieillissement de la population, potentiel énorme, jackpot en vue pour eux. Ils veulent donc aussi faire du shopping, acquisition ciblée, surtout dans la distribution. Le bilan est solide, donc ils ont des munitions. Petit souci quand même, ils gagnent leur argent en devises, mais payent leurs coûts en francs suisses. Et ça, ça reste un petit peu difficile dans le bilan. Donc, ils vont essayer d'optimiser tout ça et créer un centre d'innovation en Suisse, histoire de dire, on est global, mais on reste quand même des Suisses. En résumé, Sonova se recentre, ils vendent ce qui ne colle pas, misent sur l'IA, l'Asie et les acquisitions, et espèrent que ça suffira pour remettre du carburant et une pièce dans la machine. Voilà, on voit que les annonces du début de semaine n'ont pas franchement fait plaisir. La vente de Sennheiser n'a rien changé, mais bon, pour l'instant, on revient à des niveaux relativement bas. Et si on veut croire ce que dit le CEO, il y a peut-être un truc à jouer, mais pour l'instant, on reste quand même dans une phase de falling knife sur Sonova. Voilà, ils ont des bonnes intentions, espérons qu'ils arrivent à concrétiser. Chez Novartis, on a encore une fois sorti le chéquier et on va s'offrir Excellergy pour environ 2 milliards, assez tranquille. L'objectif, c'est muscler le business dans les allergies, parce que visiblement, éternuer, ça rapporte quand même pas mal de pognon. Et dans le deal, il récupère un médicament qui est encore en phase précoce, donc en gros, une promesse avec un prix déjà bien réel. Et comme jamais 203, ça arrive juste après un autre shopping de 3 milliards dans le cancer du sein. En ce moment, effectivement, ils enchaînent parce que les brevets expirent et que sans pipeline, eh ben, ils sont morts. Donc, ils remplissent le frigo avant que le frigo en question soit vide. Le produit star d'Excellergy, c'est un anticorps anti-IgE, version améliorée, censée agir plus vite et plus fort. Et si ça marche, ça pourrait changer la donne sur les allergies alimentaires, l'asthme et compagnie. Si ça marche pas, eh ben, ça fera un trou de 2 milliards dans les comptes classiques dans le business de la biotech. Mais Novartis, eux, ils jouent leur partition habituelle, racheter de l'innovation plutôt que de la créer en interne parce que c'est trop long. En résumé, ils achètent de l'espoir à prix premium en espérant que ça devienne un jackpot. Ne cherchez pas forcément cette annonce avec de faire une corrélation avec le comportement du titre, mais on voit que là aussi, souvenez-vous, on est revenu tester l'ancienne résistance qui est devenue un support, et ça a plutôt bien fonctionné au niveau des 114, c'était clairement un bail, on est remonté quasiment à 119. Maintenant, on essaye d'économiser de l'énergie pour voir si on arrive à casser la moyenne mobile des 50 jours et repartir à l'assaut de nos plus hauts historiques. Novartis redevient visiblement une valeur défensive dans ce marché extrêmement compliqué dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Chez Nestlé, on sort la tronçonneuse stratégique et on met en vente 50% du business haut en Europe. Oui, Perrier, San Pellegrino, tout le monde passe à la casse. Les acheteurs, c'est du lourd, c'est CDR, KKR et PAI, des fonds de private equity qui sentent le cash avant même qu'ils soient imprimés. Valorisation autour de 5 milliards, ils braquent pas non plus, mais ils veulent avancer quand même. Alors pourquoi est-ce qu'ils vendent? Parce que l'eau, ça ne croît plus assez vite. Et aujourd'hui, si ça ne crache pas assez de croissance, on dégage. Le nouveau boss est en train de tout recentrer sur 4 piliers. Le café, la pet food, la nutrition et les snacks. Et le reste, eh bien, est complètement optionnel. Ils ont déjà commencé à découper le groupe. Glace vendue, vitamines en cours. Et maintenant, c'est l'eau. On fait un démantèlement en règle. Pendant ce temps, ils ont viré 16 000 personnes. Oui, la transformation stratégique, ça a quand même un certain coût. Et comme si ça ne suffisait pas, procès pour les décharges sauvages microplastiques. L'image, c'est pas très eau pure des Alpes. Ils se sont pris 750 000 balles d'amende en France. Alors, c'est mauvais pour l'image, financièrement, rien à foutre. En résumé, Nestlé coupe, vend, nettoie, restructure et espère redevenir sexy en bourse avant que tout le monde comprenne que la croissance, elle, ne se vend pas aussi facilement que ça. Et puis alors, la news de la semaine qui ne vient pas de Trump, c'est Nestlé qui s'est fait braquer. 12 tonnes de Kit Kat. Ouais, il y a quelqu'un qui a visiblement l'intention de prendre une méga pause. Le camion est parti d'Italie et a disparu comme un trader qui aurait magouillé les comptes. Résultat, 413 000 bars dans la nature, probablement déjà en train de circuler sous le manteau. Et pendant ce temps, vous avez peut-être galéré à trouver du Kit Kat parce que quelqu'un, quelque part, a décidé de faire le casse du siècle version chocolatée. Le graphique ne veut rien dire, le titre n'a rien fait sur la semaine. Vous voyez qu'on essaye de consolider. Il y a toujours un risque potentiel qu'on ait recherché les plus bas de ces derniers mois sur Nestlé. Donc si on pourrait revenir sur les 70, si on venait à casser l'ancien plus bas qu'on a autour des 74 et des poussières ici, donc si on casse ces niveaux-là, on pourrait aller chercher effectivement, allez viens avec moi, aller chercher ce niveau-là. Mais pour l'instant, ça tient. Mais toutes les annonces de la semaine dernière n'ont pas apporté grand-chose sur Nestlé. ABB continue de surfer sur la vague intelligence artificielle et décroche des commandes pour alimenter des data centers aux USA. En gros, ils vont vendre des machines pour éviter que tout saute quand l'IA tourne à plein régime. Client du jour, VoltaGrid, des plateformes d'énergie pour data centers, donc du lourd et pas du gadget. 35 déphaseurs rotatifs ont été livrés, des équipements pour stabiliser le courant quand ChatGPT et ses cousins sont en mode, comment dire, ogre. Le message est assez simple, plus l'IA consomme, plus ABB facture. Et ça, c'est aussi un business model qu'on adore en ce moment, s'il n'y avait pas la guerre en Iran. Et puis toujours chez ABB, mais aussi chez Sika, les deux sociétés suisses investissent dans Mesh, une start-up qui veut robotiser les chantiers. Un petit ticket de 2,9 millions pour ABB, mais un gros pari sur l'avenir du bâtiment version automatisée. Les Japonais de Shimizu sont aussi de la partie, donc c'est pas juste une lubie. L'idée est assez simple, demain les robots construiront et eux, ils encaisseront. On passe maintenant au en vrac de la semaine avec Scan, résultat mou, rien à sauver, on passe à autre chose. SIG se réveille grâce à Goldman Sachs, une reco à l'achat et hop, ça repart, comme quoi un tampon bail et tout le monde oublie le reste. Tecan accueille Thomas Schmidheiny au capital. Là, t'as pas juste un investisseur, t'as un signal et le marché a aimé le signal. MCH Group s'envole, ils ont réparé la rentabilité et magie, les investisseurs redécouvrent que gagner de l'argent, c'est plutôt sympa. Orior fait le job, revenu en baisse, mais rentabilité en hausse, bénéfice 9,4 millions, comme quoi vendre moins mais mieux, ça existe encore. Gamme continue de saigner, l'hémorragie, 3,7 milliards qui s'en vont, et ils te disent tranquillement, le redressement prendra du temps. Traduction, accrochez-vous, ça peut encore secouer. Vartec double quasiment son bénéfice et balance des récompenses aux actionnaires. Là au moins, ils ont compris le principe. Et SIG, encore une fois, c'est Cevian qui monte au capital à plus de 5,6% quand les activistes montent à bord. C'est jamais pour faire du tourisme. La banque cantonale de Bâle-Campagne voudrait bien oublier 2025, radiquant leur coût de quand même 102 millions de francs suisses. Une belle boulette bancaire, comme on les aime. Avis Victoria termine dans le rouge, mais son réseau Swiss Medical Network cartonne côté revenu. Donc tout va bien, sauf le cours en bourse. Et puis Edison Power plonge, production limitée, revenu en chute libre et 7,1 millions de pertes. Le solaire, c'est propre, sauf quand ça fait brûler du cash. Voilà donc où nous en sommes. 4 semaines et demie de guerre, mais 5 semaines de baisse à Wall Street. Le détroit d'Hormuz est toujours fermé. Des sites nucléaires iraniens sont bombardés. Une base américaine en Arabie Saoudite est touchée. et Trump veut être le grand pacificateur. Encore une fois, les marchés ne regardent plus les fondamentaux, ils regardent le baril et les déclarations de Trump sur Truth Social, et ça jusqu'au 6 avril, nouvelle deadline pour les vrais bombardements américains qui pourraient reprendre. Prochain arrêt, donc, terminus, tout le monde descend. Pour les prochains jours, il y aura 5 choses à surveiller que voici. Tout d'abord, la première, le 6 avril, l'ultimatum expire, mais ce sera pas la semaine prochaine, ce sera lundi prochain. Soit il repousse encore, ce sera le lundi de Pâques en plus, et personne ne le croira plus. Soit il frappe pour de bon et le pétrole repart à 120. Mettez une alarme quand même dimanche prochain, même si c'est férié le jour d'après. Le lundi 6, c'est encore loin, mais il faudra quand même qu'on en parle, et on va en parler la semaine prochaine, je peux vous le garantir. Deuxième point, les NFP de vendredi. Les chiffres de l'emploi américain vont sortir le vendredi saint, bourse fermée. Vous aurez les stats les plus importantes du mois et vous devrez attendre lundi pour réagir aux États-Unis. Joyeuse Pâques. Ces débiles du NFP sortent les chiffres un jour férié. Là, on est en train d'atteindre des sommets. Troisième point de la semaine, l'ISM Manufacturing qui sortira lundi. Et si les prix payés explosent à cause de l'énergie, la stagflation arrêtera de s'annoncer, elle sera officiellement arrivée pour de vrai. Point 4, les premiers earnings du premier trimestre 2026 arrivent avec Nike, McCormick, Conagra. Les premiers vrais chiffres depuis que le baril a pris 54% sur un mois. Pas des tweets, hein. Une vraie claque avec des vrais earnings. Et puis en 5, la confiance des consommateurs qui sortira mardi. Les Américains aisés commencent à douter, hein. L'essence frôle les 4$ le gallon et si ça continue de se dégrader, le marché ne price plus une correction, il va commencer à pricer une récession ou une stagflation, bien sûr. Le début de printemps sera chaud, pas comme la météo. D'ici là, bon week-end. Et si vous trouvez des KitKat, achetez-en. Il y en a 12 tonnes qui se baladent quelque part en Europe. On risque quand même le shortage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français pour ne rien rater de ce qui arrive, parce qu'il va s'en passer des trucs. J'en suis à me demander si je vais pas commencer à faire un live de 12 heures chaque jour pour ne rien rater. En attendant, likez, partagez, commentez et rameutez du monde sur la chaîne. Les 100 000 followers se précisent et nous sommes à près de 19 000 vues en moyenne par jour. C'est du délire. Merci à tous. Bon week-end depuis Lyon et on se voit lundi à la première heure pour voir ce que Trump nous a fait pendant qu'on dormait. Allez, bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.